Europe 1.
Europe 1, 13h, 14h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour, ça fait 30 ans qu'ils réconcilient Paris et la province dans un même éclat de rire. Je reçois les Chevaliers du Fiel, binôme toulousain dont l'humour énorme et réjouissant porte en lui l'ADN de la France. Star mais ultra sympathique. Les Chevaliers du Fiel en fait sont partout. Voilà, d'abord avec les Municipaux La Revanche en tournée dans toute la France en 2024. Et par exemple à Brive-la-Gaillarde le 3 mai.
Ah oui.
Ça flambeau le sud, oui, je me rappelle les garçons. Et au Palais des Sports de Paris les 12 et 13 avril 2025.
Oui.
Bon, le Palais des Sports, ils en ont l'habitude puisqu'ils l'ont déjà rempli 15 fois. Et n'oublions pas leur nouveau spectacle, Monsieur et Madame Lambert aux Jeux Olympiques, que les Chevaliers du Fiel joueront à Avignon les 26, 27 et 28 mars et qui sera diffusé sur C8 en prime
en
le 28 mars en direct.
En direct.
Waouh, l'euphorie. Mmh. Alors voilà, si la scène est leur récréation, eh bien les suivre pendant une heure est la nôtre. Bonjour les garçons.
Bonjour.
Ça va ?
Belle entrée en matière.
Merci. Oui. Écoutez, juste une petite mise au point avant de démarrer, même si on n'a pas l'image. Le grand, c'est Eric.
Oui.
Le petit, c'est Francis.
C'est comme ça qu'on vous appelle.
Mais au-delà, en quoi êtes-vous totalement différent l'un de l'autre ?
Ah, on est différent.
En beaucoup de choses.
Oui.
Mais en fait, c'est différent ce qui nous rapproche.
Voilà, on se complète. Exactement le mot, c'est on se complète.
Ça y est, on commence dans la philo.
Oui, c'est
non,
un peu
c'est
ça.
Vrai, c'est un peu
non,
ça.
Non, mais
ouais.
C'est vrai, oui.
Voilà, si on était deux pareils, il y aurait déjà un mort.
Voilà.
Donc, voilà, Francis, il a beaucoup de talent de comédien, énorme
Merci,
talent.
Merci. Et j'ai en face de moi un bel auteur qui, en plus, m'écrit des rôles sur mesure. Donc,
voilà.
Ça facilite
donc,
les choses.
Donc,
donc, le couple n'est franchement pas prêt d'imploser, et tant mieux pour nous.
Non.
Bon, alors, non content d'être les stars d'un rire décomplexé, vous êtes un peu désormais nos ministres de la culture et de la gastronomie, parce que c'est quand même une aventure folle, ce championnat du monde de cassoulet que vous avez emmené jusqu'à Tokyo.
Oui, bah, la semaine dernière, on était à Tokyo.
On l'avait amené à New York déjà, et là, Tokyo.
Bon, alors, les paris qu'on fait à la fin d'un dîner bien arrosé, généralement, le lendemain, on les a oubliés.
Mais là, non.
Mais là, non. Moi, comment vous avez mis en place ce championnat du monde?
Je revendique cette idée, mais après, on l'a faite ensemble. Mais parce qu'on parlait comme ça, avec toute notre équipe rapprochée, on disait, on en a fait des conneries. Comme on dit au dessert, on dit, tu te rappelles qu'on était à Télé Toulouse, tu te rappelles qu'on était allé chez Drucker, tu te rappelles qu'on était à C8, tu te rappelles les conneries qu'on a faites et tout ça, machin. Et puis, on dit, mais c'est quoi les conneries qu'on n'a pas encore faites, finalement? Alors, on dit, on n'a pas fait un concours culinaire. Or, on a un restaurant à Toulouse, on dit, on est très intéressé par
le jardin.
Oui, le jardin.
En face du théâtre, la comédie.
Exactement.
Et on s'est dit, mais on n'a jamais fait un concours, mais de quoi? Un concours de quoi? Mais on dit, mais attends, on est Toulousains, un concours de cassoulet. Tout le monde dit, ah ouais, c'est rigolo, on fait un concours de cassoulet. On sort de là, j'appelle Francis, Francis me dit, ah oui, c'est bien. Et je dis, mais il nous faudrait une caution culinaire. Et comme on est pote avec Michel Sarran, le grand chef.
Ah, chef étoilé.
J'appelle Michel, je dis, Michel, dis donc, écoute, on a une idée, on veut faire un concours de cassoulet. Il dit, mais vous êtes malade, pourquoi vous faites ça? Je dis, mais si, on va rigoler, viens. Il dit, ok, je viens. Et ça, c'était il y a 8 ans. Voilà.
C'était il y a 8 ans. Mmh. Bon, alors, aujourd'hui, les Chevaliers du Fiel, votre championnat du monde, il a carrément pris une dimension planétaire. Après New York, effectivement, en 2024, et ben, vous l'avez exporté à Tokyo avec pour complice à Tokyo le chef André Pachaud qui lui exporte depuis 54 ans la cuisine du sud-ouest au Japon.
Ouais.
Mais alors moi, j'ignorais qu'au pays du soleil levant, on aimait le cassoulet.
Bien sûr. Et alors, Pachon, justement, qui a repris là-bas le restaurant de Bocuse il y a 50 ans, il a formé tout un tas de cuisiniers japonais à la cuisine du Sud-Ouest. Ça fait que quand on a fait ce concours de cassoulet à Tokyo récemment, là, ben, on a été étonnés parce que le niveau était très, très bon.
Bon niveau,
ouais.
Bon niveau. Ça vaut pas les Français.
Non, c'est les ingrédients qui changent un petit peu.
Ça va, là, ils se permettent des trucs que
par exemple.
Tu fais ça dans le Gers, t'es mort, quoi.
Ouais, ils ramènent un petit peu de yuzu
dans le cassoulet.
Voilà, ils rajoutent des épices qui n'existent pas dans le Tarn-et-Garonne ou dans le Tarn, faut le savoir. Mais on a trouvé ça incroyablement sympathique, surtout le pays, on a trouvé ça très particulier. Et
parce que vous connaissiez Tokyo ou vous n'étiez jamais venu?
Non, jamais allé, parce que c'est à l'opposé de nos valeurs, en gros, de notre mode de vie, les Japonais.
Ah, mais c'est une autre planète.
Nous, on est bordélique.
On est latin.
Nous, on est bordélique, on n'est pas à l'heure, on improvise. tout ce que ne font pas, quoi.
Eux, ils sont dans le rang, ils sont, c'est la ruche, hein, c'est les abeilles, chacun a son rôle.
Mais alors, lorsqu'on vous a lâché les Chevaliers du Fiel dans Tokyo, dites-nous, oh, j'imagine, qu'est-ce qui vous a le plus surpris culture japonaise?
On a fait tout là-bas, on a testé les bars à chouettes,
les bars à chouettes.
Parce que là-bas, ils ont un problème à Tokyo, c'est très concentré, les logements sont tout petits, les copropriétés interdisent les animaux. Alors, pour se retrouver en compagnie.
Ils ont des bars avec les animaux.
Il y a des bars avec des porcs, avec des chiens, avec des chats,
des chiens, des belettes,
des hérissons. Il y a des bars à tout. Voilà. Alors, on n'y boit pas, hein. Il n'y a pas de consommation.
Dans le bar à chouette, tu bois pas. Dans le bar à chien, tu peux boire. Je suis allé aussi.
Ah ouais?
Ouais.
Alors, les animaux se baladent en liberté.
Oui, alors les Japonais,
caresser.
Ils sont tellement sur une autre planète qu'ils n'en ont jamais vu en vrai. Donc, t'as assis en tailleur, puis t'as un chien banal, un chien comme on en connaît un milliard chacun, qui vient, qui te renifle un peu, ou qui se colle contre toi aussi, parce qu'ils sont gentils, ces chiens. Et les Japonais, ils ont presque la larme à l'œil en disant, oh là là, il y a un animal qui me parle et tout ça. Et ils sont quand même un peu fêlés.
Ils reviennent sur la nature, oui, c'est ça.
moi, ils m'ont fait. Pas peur, mais à moi on m'avait dit c'est un autre monde, c'est pas un autre monde,
non, c'est
un
surréaliste.
Monde, c'est un monde parallèle. On est un peu primaire quand on raconte tout ça, mais n'empêche que c'est ça qu'on ressent là-bas.
Mais on l'a ressenti sympathiquement.
Attendez, hein. Votre culture à vous du Sud-Ouest, ils en sont quand même bien imprégnés parce que le soir du championnat, on a vu tourner les serviettes par le jury nippon.
Oui. Ah oui, ah, mais on les a convertis. Hein.
Ah oui. Ah, ouais. Il y avait une ambiance très Sud-Ouest.
Ils se sont lâchés.
Et tout, hein,
ils se sont lâchés. Ouais. Les japonaises, parce que c'est vachement strict. Les Japonais, ils sortent, ils déconnent pas. Hein. Ils arrivent en costard trois pièces, les bonnes femmes en robe longue. Ils y viennent manger du cassoulet, c'est pas, ils rigolent pas. Bon. Et puis, au bout d'un quart d'heure, de deux cassoulets, de quelques bouteilles de vin, ils étaient là avec les serviettes.
Voilà, on était sur scène avec Patrick Sébastien.
Cinq sacs et plus loin, et ce sont pas les mêmes.
Voilà. Bon, qui a remporté le prix du meilleur cassoulet du monde?
Alors, il y en a deux meilleurs cassoulets
du
monde.
Il y a le prix du jury qui a été remporté par Patrick Pachon, qui est un fils de Pachon.
Et le grand prix du public. Par Romain, qui a un restaurant qui s'appelle Gentil Magre à Toulouse, qui était déjà champion du monde l'année dernière et qui fait franchement le meilleur cassoulet, à part celui de ma mère.
Ouais. Ah, il m'a volé la chute, ouais. J'en étais sûr. Ouais. Bon, la prochaine fois, ce championnat du monde du cassoulet, il aura lieu où? En Argentine, en Islande?
En Argentine.
Tu crois pas si bien dire, en Argentine.
Buenos Aires.
Depuis hier, on est dans l'organisation de l'an prochain.
Parce que vous y mettez combien de temps à l'avance pour l'organiser?
Un an avant.
Ah oui.
Pour l'étranger, un an avant. Donc là, on discute avec un chef argentin et on veut vraiment cadrer, parce que ça prend vraiment de l'ampleur cette histoire, parce qu'on l'a fait vraiment pour plaisanter, mais en fait c'est sérieux parce que les gens
cuisiniers,
qui gagnent, ils remplissent leur resto un an avec ça.
Oui, c'est plus 30% de vente de cassoulet, il y en a qui ont engagé d'autres cuisiniers pour faire face à la demande, il y en a qui donnent des cours de cuisine.
Nous-mêmes, on va racheter William Sorin.
Oui.
Bon, les Chevaliers du Fiel, vous êtes en tournée toute l'année 2024 avec vos héros, les municipaux Larvanche. Or, en France, il y a 6,5 millions de fonctionnaires. Oui. Alors, avec la réputation que vous leur faites, ils viennent malgré tout vous applaudir, les 6,5 millions de fonctionnaires français.
Oui. Parce que contrairement à plein de gens, ils ont de l'humour.
Mais ils nous klaxonnent dans la rue.
Ils disent c'est pire en vrai.
Mais oui. Ouais, on est en dessous de la réalité, c'est ce qu'ils nous disent.
Pourquoi la revanche?
Parce que, après trois spectacles là-dessus, deux longs métrages, etc., je me disais, ça serait quand même bien qu'il y ait une morale à un moment, et qu'ils puissent se venger socialement, parce qu'en fait, quand même, c'est pas des dirigeants, c'est des salariés, ils subissent quand même toute une pression sociale.
Hiérarchique.
Sociale, ouais.
Et alors, il
y en a un des deux qui a l'occasion de racheter pour 1 euro le service des poubelles de Marseille qui est en faillite.
Et ils deviennent patrons.
Et là, il voit les inconvénients aussi du patron, c'est-à-dire qu'il travaille beaucoup, il a beaucoup d'ennuis, sa femme n'est pas contente parce qu'il est jamais là, enfin bon, etc. Tout ce qui va avec, quoi, grosso modo.
Et puis, ils connaissent bien les mécanismes des syndicats.
Voilà. Exactement.
Et donc, au bout d'un moment, il y en a un des deux, Francis, qui craque et qui se fait pistonner pour revenir à la ville. Et moi, je tiens encore un peu plus, mais finalement, je craque aussi. Et les deux se font pistonner, reviennent à la ville et disent quand même, c'est là qu'on était le mieux. Donc, voilà.
Alors, les Chevaliers du Fiel, vous êtes à la fois ultra populaire et archi secret. Oui. De votre trajectoire personnelle, on sait presque rien, à part... Pour Éric Carrière, je le rappelle, le grand, que vous êtes né à Gaillac, dans le Tarn, et que vous êtes le seul humoriste, certainement, à avoir un doctorat en sociologie. Mm-hmm. Et pour Francis Ginibre, donc le petit, que vous êtes né à Toulouse, que vous avez fait les Beaux-Arts, et que Claude Nougaro vous a remis une médaille.
Mais alors ça vous... c'est une invention d'Éric Carrière.
C'est quoi ça?
Mais parce que les journalistes parisiens, alors tu vas avoir une vraie
anecdote. C'est pour ça que je me dis, mais quoi?
Les journalistes parisiens, tu les connais par cœur, quand nous on a débarqué à Paris, il fallait qu'on ait un CV, enfin un truc, tout ça.
Et donc, alors vous l'avez inventé,
voilà,
en flanc.
Ils nous appelaient et tout ça, et un jour il y a une nana qui appelle, qui dit, oui voilà, alors, est-ce que vous pouvez parler de Francis, de son cursus, etc.
Attends, il a quand même dit... J'étais champion de basket.
J'ai dit que...
Ah oui, il mesure combien, Francis?
Attends,
c'était pour le saut en hauteur, ouais, c'est génial. Mais donc, ça n'a surpris personne, parce que non. Francis, vous mesurez combien?
Ouais, 70 à peine.
Ah ouais, voilà.
Et non, moi j'ai dit, alors Francis a un très grand passé de sportif, puisqu'elle a été champion régional, pratiquement national de saut en hauteur. Donc la nana, on très bien. Et ensuite, c'est lui qui a écrit pas mal des chansons que Nougaro a chantées. Et la nana...
Respirer sous la douche.
Ah ça, c'est quand même pas dans Wikipédia.
Non.
Quand même,
non,
ne
non,
pas
non.
Oser.
Et bien la nana, elle l'a dit ça, ouais, et pendant un moment, les journalistes appelaient Francis.
Bon,
alors
ben
vous avez
voilà,
écrit des chansons pour Nougaro.
La légende meurt aujourd'hui sur Europe 1, on ne vous le dira plus jamais.
Le seul point en commun avec Nougaro, c'est qu'on habitait la même ville, et puis que j'étais musicien, et donc professionnel. Voilà.
Et qu'on était fan de Nougaro.
Et on était fan de Nougaro, évidemment, puisque c'est le seul qui a mis les mots français sur du jazz. Quoi.
Voilà, avec un groove d'enfer.
Ah, voilà.
Alors, Éric Carrière... Pour obtenir un doctorat en sociologie, il faut plancher 5 ou 6 ans après le bac.
Ou 7.
Ou 7, plutôt. 7 ans. Bon, ouais. Vous montiez déjà sur scène alors que
oui,
vous étiez encore sur les bancs de la fac.
Oui, je n'avais aucune ambition d'être prof de quoi que ce soit.
Alors pourquoi avoir fait sociologie?
Mes parents étaient profs. Et un jour, on s'est engueulé avec mon père, comme tous les gamins de 17 ans. Hein. Je me suis engueulé avec mon père. Ouais, je vais aller travailler à l'usine. Je suis allé travailler à l'usine, 6 minutes 15. Et je suis rentré, j'ai dit non, je ne peux pas travailler à l'usine. Il m'a dit alors tu vas à la fac? J'ai dit oui, ben inscris-moi. Et comme il était prof, il connaissait des gens, les dates étaient passées, il y avait qu'un truc qui restait ouvert.
Sociologie.
Il me dit il y a que sociologie. J'ai dit ben inscris-moi là. Et puis après il m'a dit bon bah tu te débrouilleras. J'ai dit ok, je me débrouillerai.
Ben c'est très bien débrouillé. Il a décroché un doctorat.
Oui, mais ça n'a pas. Enfin, ça a une vraie valeur, mais j'avais pas d'ambition d'être prof, surtout pas. Pas parce que je les aime pas, je les adore. Mais je voulais pas faire ça moi. Et donc, je me disais, je ne sais pas ce que je ferais. Donc, je suis devenu vaguement, enfin même assez, plus que vaguement, skipper de bateau pendant 2 ou 3 ans.
Ah oui.
Après, je me suis dit ça, à 25 ans, c'est sexy. À 35 ans, c'est pas mal. À 45 ans, c'est pathétique. Donc, je me suis dit, faut faire autre chose. Et des copains m'ont inscrit à un radio-crochet. Il y avait un énorme radio-crochet, donc quand même, les parrains étaient Cabrel et Souchon, donc un truc sérieux.
C'est chic.
Et moi, j'étais allé là uniquement parce qu'il y avait de l'argent à gagner et qu'on n'avait pas un rond. Et donc, je suis allé là-bas, j'ai été sélectionné, me suis retrouvé en finale. Et là, ils m'ont remis le prix spécial d'humour et d'originalité, parce que j'étais déjà un peu déviant. Et ça n'a eu comme répercussion...
Mais quand même,
oui.
Choisi, honoré, célébré par Cabrel et Souchon.
Ouais, c'est vrai. Et puis, je ne le savais pas, mais avec ce prix, on m'a offert de faire des premières parties de gens connus.
Oui.
Donc, ça a été pour moi une révélation. Mais quand on dit une révélation, c'est j'ai vu la Vierge, quoi. C'est-à-dire,
bah oui,
non,
nouveau métier.
Je montais sur scène, 2000 personnes, j'ai fait mes conneries, les gens riaient. J'ai dit, mais je veux faire ça toute ma vie. Même pour rien, hein. C'était pas un problème d'argent, c'était, je voulais faire ça.
Mais alors, Éric Carrière, tous les sociologues n'ont pas d'humour.
Non.
Mais s'ils en ont, un peu plus sérieusement, dites-nous, est-ce que c'est un cursus intéressant pour devenir humoriste, sociologie?
Pour faire des choses populaires, il faut être cultivé. Ça me paraît bizarre.
Jolie réponse.
Eh ben voilà.
Oui. Alors vous, Francis Ginibre, pendant qu'Éric planchait dans un amphi, vous faisiez les beaux-arts.
Exactement. Alors moi j'avais vraiment envie de faire ça, à part que très rapidement je me suis aperçu que c'était pas fait pour moi parce que la solitude des ateliers, tout ça, ça me plaisait pas trop. Et donc très rapidement je me suis branché avec des musiciens, avec mes premières bourses d'étudiants je me suis payé une batterie, j'ai pris des cours tout seul, un autodidacte, et très rapidement je suis rentré dans des orchestres pro et je n'ai fait que ça, et c'est
et
grâce
un jour,
à ça qu'on
voilà,
s'est rencontré.
Éric avait besoin d'un batteur pour un spectacle.
Exactement,
voilà.
Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Alors c'est fou parce que le hasard fait que j'avais un ami qui était pianiste et il jouait le jour où il a passé son concours de son radio crochet.
Ouais.
Donc je l'ai vu gagner sans le connaître. Et on s'est revu des années après et on s'est mis ensemble.
Et on ne s'est pas quitté parce que le soir même de ce, ils étaient pour 2 spectacles.
Exactement.
Le soir même, Francis est venu dormir à la maison. Et
il y dort encore.
Oui. Non, il est resté longtemps. Puis après, on a pris une maison ensemble.
Oui.
Et puis après, on habitait longtemps ensemble. Et
ouais,
après,
c'est magnifique. C'est ça l'amitié. Mais alors justement, parce que moi, j'allais vous demander comment d'une rencontre on passe carrément un mariage professionnel pour la vie. Est-ce que chacun était fan de l'humour de l'autre, c'est ça ?
Moi, j'étais fan, je lui ai dit d'ailleurs le premier soir, je lui ai dit, t'es batteur, mais tu devrais pas. Tu devrais être comédien. Non, mais t'es un très bon batteur. Hein. Je lui ai dit, tu devrais être comédien.
Ben,
parce
on a le sens du rythme de la comédie, justement,
oui,
quand on est
ça.
Batteur.
Mais surtout, il y a des gens, ils montent sur scène, ils sont transparents. C'est fréquent, ça. Il y a des gens,
bien sûr.
Ils font 50 télés, personne s'en souvient. Il y a des mecs qui font deux télés, tout le monde le sait. C'est la vie. Il n'y a pas de justice là-dedans.
Mais
et j'ai dit à Francis,
vrai.
Si tu veux faire une carrière de comédien, j'avais pas une grande expérience à ce moment-là, mais j'ai dit, je te garantis que t'as ta place. Et donc, un an après, on a tenté.
On a commencé timidement, j'avais une phrase, puis deux, puis dix, puis voilà.
Ça fait combien d'années ?
Maintenant, 30, ouais, 30, plus de 30 ans.
Plus de 30 ans. Mmh. Alors, les premiers spectacles des Chevaliers du Fiel, c'était dans des caves à Toulouse, puis il y a eu plusieurs années de suite le Festival d'Avignon,
et au
milieu des années 90, vous avez déboulé à Paris, les garçons. Mais alors, paraît-il, des désillusions et des galères qui aujourd'hui font rire, vous en avez connu pas mal à vos débuts.
Oui.
Par exemple, cette invitation à Télématin où on vous a oublié sous une table.
C'est vrai.
Ça, c'est vrai.
Ah, j'ai dit
c'est
ça.
La télé peut être cruelle.
On n'avait pas de... pour faire des télés, tout ça, il faut...
Déjà, pourquoi vous avez tombé sous une table ?
Non, mais en fait...
Le studio était minuscule.
Le studio était petit. Et donc, nous, on n'avait pas idée de ce qu'était la télé. On n'en avait jamais fait. Donc, on se pointe... C'était à 7h du matin. On s'est pointé à 5h15 du matin, pour être sûr.
Ouais.
Et là, l'animateur, qui était Lionel Cassan, dont on salue la mémoire, qui était un type très sympa, il nous dit, voilà, vous avez vu, le studio est petit... Il va y avoir des rubriques, et à un moment, on vous appelle et vous faites votre sketch. Et on dit, on se met où ? Il dit, le studio est trop petit, mettez-vous sous la table.
Pendant le truc de cuisine, et vous sortirez.
C'est digne de surprise.
Alors on se met sous la table, il y avait une nappe, et nous on était sous la table. Moi à l'époque, j'étais déjà optimiste, donc je disais à Francis,
ça va être à nous.
L'émission défile, les rubriques.
Et pendant une heure, vous lui dites, ça va être à nous.
Ah oui, les femmes, la couture, tout y passe, la météo, le machin, le truc. Et à un moment, on l'entend qui dit. Eh bien voilà, mesdames, messieurs, bonne journée. Et moi, je dis à Francis, toujours optimiste, ça, à mon avis, juste après le générique, ils font une surprise.
Donc, prépare-toi à bondir.
Nous, on est là, puis on entend le générique, puis on n'entend plus personne. Et puis nous, on n'ose toujours pas bouger. Au bout d'un moment, on sort de sous la table, il n'y a plus personne.
C'est magnifique.
L'émission est finie.
Non, mais c'est extraordinaire.
Ah oui, bienvenue à la télévision.
Et alors là... Là, il y avait une grosse porte en tisson là qui avait dans les trucs. Et là, ils étaient tous en train de prendre le petit déj après l'émission, quoi. Et nous, on arrive. Et là, Lionel Cassan, il fait putain, on vous a oublié. Et alors, on dit moi, toujours avec de l'espoir, je dis ben, on reviendra demain. Ah, il dit oh, non, c'est programmé pour les 3 mois qui viennent et tout. Puis on l'a jamais fait.
Oh les voyous. Bon, notre réalisatrice Corinne Reich en pleure de rire. Allez, on peut dire en tout cas les Chevaliers du Fiel que tout ça, ça donne encore plus de sel à la réussite.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 13h-14h, Isabelle Morizet.
Bon, les Chevaliers du Fiel n'ont rien à envier à Johnny, puisqu'ils ont déjà rempli 15 fois le Palais des Sports à Paris, et ils vont dépasser encore cette performance les 12 et 13 avril 2025 avec les municipaux, la revanche. Pendant les pubs, là, vous nous disiez quelque chose d'absolument extraordinaire concernant la suite de l'anecdote surréaliste que vous nous avez racontée quand on vous a oublié pour votre première émission de télé sous une table dans le décor, générique de fin et tout le monde se barre. Mais ce jour-là quand même, ce jour-là, les dieux se sont rattrapés, n'est-ce pas ?
Oui, bah oui, quelques temps après. Moi, j'avais fait un peu du charme à la patronne du musée Grévin, du théâtre Grévin, parce qu'on n'avait pas d'argent et on voulait jouer au théâtre Grévin, mais on n'avait pas de quoi payer la salle, enfin bon, etc. Et elle avait dit, bon allez, je vous laisse la salle une semaine, genre bon. Et on joue une semaine, et franchement, contre toute attente, ça démarre bien.
Carton.
Et au bout d'une semaine, elle dit, mais ne partez pas, restez. Donc on reste une semaine, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Et un soir, on nous dit, il y a Michel Drucker dans la salle. Il faut savoir que Michel Drucker, qui est devenu depuis un ami, mais à l'époque, on ne le connaissait pas, on n'avait pas d'attaché de presse, il n'y avait aucune raison qu'il vienne là.
Ouais.
Donc nous, on regardait par le rideau, et comme il y avait plein de personnages en cire au musée Grévin, on avait pensé qu'ils nous avaient foutu un faux Drucker.
Les voyous.
Et donc, on regardait, on disait, il bouge. Ouais, il bouge. C'est le vrai Drucker. Oh.
Mettez du citron dessus.
Bon, bref, on fait le spectacle. Et à la fin, on nous fait savoir que Michel Drucker aimerait bien nous saluer dans la loge. On envoie notre assistante acheter du champagne chez le Tunisien juste en bas. Bonjour, faire bien. Évidemment, lui, il arrive, il dit, je bois pas de champagne. Il dit, bon, ok. Et il dit, si vous voulez, on déjeune ensemble demain parce que je veux vous engager. Le lendemain midi, on va à Montmartre dans un petit resto. Ouais. Et il dit, je vous engage, tout ça, machin, génial. Voyez mon beau-frère pour les conditions. Je sais pas quoi. Nous, on n'ose rien dire. Et avec Francis, on s'était toujours juré que si un jour on avait un gros truc qui nous arrivait, on irait au Fouquet's,
ouais,
sur les Champs,
ouais,
prendre un dessert parce qu'on n'avait pas tellement les moyens de prendre autre chose.
Mais pour le dessert, voilà, juste le dessert, c'était envisageable.
On imaginait une mousse au chocolat. C'est ça.
À deux. Partagé.
Ah oui. Et donc, vrai de vrai, donc le lendemain, on va au Fouquet's tous les deux, après avoir déjeuné avec Drucker. Et là, mon téléphone sonne. Et on avait un copain qui faisait de la radio sur une autre radio, mais qui avait un talent, c'est qu'il imitait Jean-Pierre Foucault vachement bien. Et donc, il m'appelle et je lui dis, écoute Pierre, je peux pas te répondre parce qu'on est en train de fêter un truc avec Francis et tout ça, et il imitait Foucault. Et je lui dis, écoute, non, je t'ai reconnu, tout, c'est pas grave. Bon, bref, je raccroche. 5 minutes après, ça rappelle. Oui, tout ça, c'est Jean-Pierre Foucault. Je lui dis, ah, t'es pénible. Et toi, on fête un truc, je te rappelle après. Et puis, 3e fois, il rappelle. Là, je lui dis, écoute, si vous êtes vraiment le bureau de Jean-Pierre Foucault, dites-nous à quel numéro je peux vous rappeler. Et là, la nana, elle me donne un numéro, elle dit, oui, il attend votre appel. Alors, je dis à Francis, attends, je vais quand même appeler. J'appelle, j'ai un, ah, vous appelez, oui, ben Jean-Pierre attend votre coup de fil, il allait finalement mal le prendre, enfin, etc. On va passer, moi. C'est Jean-Pierre Foucault, à l'époque, RMC, c'était rue Caraman, c'est-à-dire pas loin des Champs. Et il dit, alors voilà, j'aimerais beaucoup vous engager le même jour. Et dans le foulé, on a signé avec Foucault le même jour pour la radio.
Ça valait le coup d'avoir attendu,
oui,
plié en 16,
ouais,
sous une table dans la pénombre pendant une heure.
Et du coup, on a repris une mousse au chocolat.
Exactement. Et, voilà.
Et 15 jours après, on nous a proposé de faire
un disque
avec Cassim Camille, qui était déjà une chanson du spectacle.
Bon, voilà. Attendez, je te prendrai nu sous Cassim Camille, ouais, qui est, voilà, chef-d'œuvre absolu. Vous en avez vendu combien d'exemplaires?
Alors, 400 000 singles et 150 000 albums. Et encore, franchement, c'est parce qu'on était dans une petite maison de disques qui n'arrivait pas à fournir. Parce
qu'on
aurait été dans une majeure.
Vous savez qu'aujourd'hui, on est au-delà de l'album de diamant, de platine, sais-je. Hein. Alors, les garçons, les chevaliers du fiel. Bon, aujourd'hui, la France médiatique, c'est un grand tribunal. Comment vous faites pour échapper à la vindicte qui grille certains humoristes?
En fait, nous, avec Francis, ce qui nous a toujours reliés aussi, c'est que on n'avait pas envie qu'on nous dise ce qu'on devait faire, ni comment on devait le faire. Donc, on n'a jamais pris des cours de rien et tout ça. On a fait comme on voulait, ce qui fait que je crois que les gens nous sont reconnaissants d'être vrais. C'est-à-dire qu'ils savent que, voilà, que quand on dit on va faire la revanche des municipaux, c'est pas une étude de marché. C'est que nous, on va se sentir bien là-dedans. Et là, les Lambert aux Jeux Olympiques, sur C8, voilà, moi, j'ai écrit ça en novembre, décembre, vous voulez parler des Jeux Olympiques, faire un nouveau spectacle. C'est vraiment un nouveau spectacle. Et ça sera en direct à la télé.
Et ça sera en direct à la télé. Et alors, c'est une mine d'or, carrément, les Jeux Olympiques,
oui,
franchement.
Oui, c'est une mine d'or.
Hein?
Ah bah oui, ça va être une mine d'or. Enfin, déjà,
peut-être pas pour les athlètes, mais
si, pour la France.
On l'espère.
Justement, médaille d'or, je leur souhaite. Mais mine d'or, parce que on va dire que ça s'annonce quand même d'une manière assez épique et chaotique.
Ah oui, enfin, nous, pour notre spectacle, Monsieur et Madame Lambert, voilà, c'est l'histoire d'un couple de Français moyens, donc tout à fait adorable, qui décide, Madame Lambert, sa folie, c'est d'aller aux Jeux Olympiques à Paris. Elle veut voir la cérémonie d'ouverture sur la scène. Il loue un appartement Airbnb pour voir la cérémonie par la fenêtre. Il n'y a pas de fenêtre dans l'appartement qu'ils ont loué. Et c'est une suite d'arnaques et de péripéties qui vont faire que voilà, enfin, ça tourne autour de ça. Franchement, on l'a joué 6 fois pour le roder avant la télé, le spectacle. C'est un délire total.
Et vous allez le jouer à nouveau à Avignon, les 26, 27 et 28 mars.
Exactement.
Et c'est la fameuse dernière représentation du 28 mars.
Qui sera filmé en direct.
En direct, voilà, sur C8.
Oui, alors l'horaire, c'est Hanouna moins le quart.
Allez, c'est ça. Dès qu'on nous laisse en télé, c'est bon.
Voilà, c'est comme ça qu'on compte
les horaires.
Oui, les horaires.
On
sont
le salue, hein, Cyril, parce que bon,
on t'embrasse, Cyril.
En bon terme.
Alors, dites-nous, en fait, bon, vous êtes totalement hyperactif, et vous, Eric, vous changez plusieurs fois par jour de casquette, parce que le matin, vous êtes auteur, dans la journée, vous êtes producteur, le soir, vous êtes sur scène, donc vous êtes acteur, humoriste, et il paraît que les plannings des Chevaliers du Fiel sont prévus 2-3 ans à l'avance.
Ah oui, longtemps à l'avance, en tout cas, parce que ne serait-ce que pour la télé, les les tournées. D'abord, bah, par exemple, avant-hier, on était à Bordeaux, à l'Arena, il y avait 5000 personnes. Ça, ça ne s'organise pas la veille. Hein. C'est un an et demi avant qu'on ouvre les locations. Donc, on sait deux ans, en gros, à l'avance, ce qu'on va faire. Et puis, on a toujours, pareil, comme tout le monde, des plans B, des plans C. Par exemple, on a un film en attente. On se dit, bah, dès qu'on a envie, que c'est le bon moment.
Alors, il paraît que Canal attend. Parce que même extraordinaire. Il paraît même qu'ils attendent impatiemment que vous vous mettiez à l'œuvre. Mais pourquoi vous êtes si peu pressé?
C'est parce qu'en fait, il y a tellement de projets. Bon, déjà, le premier projet, nous, c'est la scène et c'est ce qui nous occupe le plus.
Le deuxième, c'est la télé qu'on adore.
Exactement.
Oui, je crois deviner que le cinéma, le 7e art, ne flatte pas plus que ça vos égos réciproques.
On n'a aucun égo par rapport à ça. Non. Et les gens du cinéma, ne sont pas notre tasse de thé. Voilà. Moi, je dis toujours un technicien de chez nous, là, qui remplit les zéniths et tout, qui monte la technique. Il est porteur de câbles. Le mec qui porte des câbles, son métier, c'est porteur de câbles. Au cinéma, le mec qui porte les câbles, il est porteur de câbles du cinéma. C'est-à-dire qu'il porte des câbles comme l'autre, mais de cinéma. Enfin, moi, j'adore.
C'est le 7e art.
Oui, voilà. Tout le monde se la joue. Hein. Rien. Enfin, même que ce soit des scandales ou des choses magnifiques au cinéma, parce qu'il y a évidemment des choses magnifiques, tout prend une proportion, c'est incroyable. Ils sont, franchement, ils ont un côté snob vachement dépassé.
Bah nous, on est dans le show, c'est plus apparenté au cirque, quoi. C'est-à-dire que c'est une équipe qui se déplace, on monte le chapiteau, on joue, le lendemain, tout le monde se déplace dans la nuit. C'est vrai que ces techniciens, ils ont moins
dire,
de...
Si on se dit vrai, par exemple, dans le spectacle, quand on a du succès, et si on le gère bien, on gagne de l'argent, mais on l'a mérité, ou on perd de l'argent. Il y a des gens qui perdent beaucoup d'argent. Mmh. Et il faut quand même dire la vérité, dans le cinéma français, il y a beaucoup de gens qui prennent d'énormes bides en gagnant de l'argent. Et donc, les dés sont pipés. Il y a des producteurs qui vivent très très bien de leurs échecs.
Oui, avec ce qu'on appelle des succès d'estime.
Voilà. Moi, nous, on n'a rien contre ça. Mais au moins, ce serait bien qu'ils arrêtent de prendre des grands airs, quoi. Parce que des fois, ils prennent des gros râteaux et ça fait rien, ils vont quand même...
Vous savez que c'est extrêmement rafraîchissant de vous entendre parler ainsi, les Chevaliers du Fiel, parce que on n'entend pas souvent ce genre de discours.
Non, mais personne dit ça, parce que nous, en disant
justement...
ça, on se grille. Il y a des gens du cinéma qui vont dire « Non, mais c'est qui ces petits cons ?»
Non, mais attendez, Canal attend votre troisième film. Donc
Canal,
vous ne vous grillez pas. Voilà,
non.
C'est la famille.
Oui.
Bon, les Chevaliers du Fiel... La dernière fois que vous vous êtes fâché, ça a duré combien de temps?
Oh bah fâché, non.
4 minutes?
Même pas.
45 secondes?
On n'a été pas d'accord quelques fois, mais...
Mais ça n'a jamais entraîné de fâcherie.
Jamais de fâcherie, jamais de dispute. Mais alors justement, vous êtes ultra complices et soudés pour la vie, donc vos femmes... sont obligées d'être les meilleures amies du monde.
Non, bah c'est pas le cas. Elles sont pas non plus.
Elles s'entendent bien, mais en fait, elles se voient peu parce que
on mélange pas trop.
Voilà, elles ont des univers un peu différents. Nos filles aussi, d'ailleurs.
Ouais.
Mais non, c'est en fait, c'est une association.
C'est nous qui nous sommes associés.
Exactement.
C'est pas
voilà.
Nos familles. Hein, c'est voilà.
Et
quand on est ensemble, moi, je sais des choses de Francis et c'est des choses de moi que nous deux seuls savons.
Voilà.
Hein? Bon, vous n'aimez pas trop les vacances, mais quand vous en prenez, vous partez ensemble ou pas?
C'est arrivé.
On l'a fait pendant longtemps.
On l'a fait beaucoup. Et puis après, un jour, on a dit, c'est beaucoup.
Puis bon,
c'est trop.
Oui, et puis bon, c'était pour nos compagnes aussi.
C'était compliqué.
Ça devenait compliqué quand même.
Mais c'est vrai que dès qu'on se retrouve ensemble pour faire autre chose que de bosser, on n'a aucun souci.
Par exemple, vous aimez bien naviguer. Alors voilà, on en arrive au bateau.
Ah oui.
Lequel est le meilleur navigateur des deux?
Moi, j'en ai fait toujours. Et depuis que je suis né, presque.
Voilà, on en a fait ensemble parce qu'après, on a fait les régates, on a fait plein de choses.
Et puis on a ramené Francis avait jamais fait de bateau.
Oui.
Et il y avait le voilier d'un copain qui était au sud de la Turquie.
Oui.
Et je lui dis, écoute, je dois ramener un bateau du sud de la Turquie avec un autre copain.
Ah, mais c'est sérieux pour une première.
Ah oui.
C'est-à-dire, c'était son baptême de mer.
Ah oui. Et il s'est fait 26 jours de mer.
En moussaillon.
Parce qu'on n'avait pas de moteur, c'était en Méditerranée, en plein mois d'août, pas de vent. Et donc on a dérivé. À un moment, on était entre la Crète et la Syrie.
Oui.
Et on n'avait plus rien à bouffer. Et c'était un bateau très précaire.
C'était sympa, on a bien rigolé.
Mais on a rigolé.
Ah ouais. Donc on était quatre sur ce bateau. Et nous, on avait décidé de faire l'écart tous les deux. Donc on passait des nuits.
On se racontait nos vies. Après, on se racontait notre futur.
Voilà.
Et après, on se racontait tout ce qu'on ferait pas. Et après, parce que 26 jours, on a le temps.
Et après, vous disiez, mais alors attendez, entre la Crète, la Syrie, il n'y a pas de pirates dans ces eaux-là?
Enfin, non.
Mais c'est chaud quand même.
On avait une carabine sur la couchette dont on n'a pas eu à se servir.
Heureusement d'ailleurs, parce que on
était mal, ouais. Bon, en fait, on a fait des trucs comme ça, puis beaucoup de régates ensuite, parce
après,
que ma passion, c'est
pas
les courses de bateau. Donc,
et vous en avez gagné pas mal, Eric, des régates.
On en a gagné, ouais.
Oui,
on a fait des trucs.
Oui, on a fait pas mal de bateaux.
Bon, Eric Carrière, comment vont vos vignes?
Elles vont bien. Alors je salue, parce que pensez bien que moi, c'était mon rêve d'avoir un peu des vignes. Donc, j'en ai à Collioure, des vignes, donc dans les PO, qui manquent d'eau d'ailleurs, tout le monde le dit, mais c'est vrai. Et je salue tous les amis, parce qu'il y a plein d'amis qui s'occupent des vignes là-bas, pendant que moi je fais le zouave ailleurs. Donc les vignes, elles vont bien, mais surtout avec Francis, on partage la passion du vin en général. Donc,
et votre vin à vous? Alors, s'il fallait le définir.
C'est un Collioure AOC, donc c'est des vins assez tanniques, assez, qui sont gorgés de soleil, qui sont assez puissants et assez alcoolisés, à peu près comme nous.
Et bon, les vignes, elles souffrent, mais elles aiment ça aussi.
Oui,
un petit peu,
c'est
le vin.
Vignes.
Il faut qu'elles soient dans la résistance
Exactement.
Non,
exactement.
Franchement. Ça c'est vraiment une joie d'avoir.
Mais vous faites combien de bouteilles par an?
J'en sais rien. Disons que parce qu'il y a plusieurs lots, mais il y en a un où je suis absolument certain que ça fait 10 000 bouteilles à chaque fois.
Oui.
Et l'autre, c'est compliqué parce que l'autre, elle est dans une cave coopérative, donc c'est mélangé. Ça fait plutôt du Bagnouls, qui est un vin cuit, qui est un peu plus au nord que Collioure, voilà.
Mais alors, vos vins à vous, ceux qui vont pas en coopérative, ils sont servis dans votre restaurant toulousain?
Bientôt.
Mais oui,
voilà.
Quand même.
Pour le moment, non, mais bientôt.
Voilà.
Alors. Les Chevaliers du Fiel, justement votre restaurant, parce que j'ai pas eu le bonheur d'y aller, mais il paraît qu'il est en face de la Comédie de Toulouse.
Exactement.
Superbe théâtre donc qui vous appartient.
Oui.
Et il a un potentiel tout à fait inattendu, en plein cœur de la ville, parce qu'il a un jardin.
Oui. Voilà, d'où son nom,
un
le jardin.
Parc, un petit parc, on
avec,
peut dire.
Voilà, on peut y jouer à la pétanque.
Il y a deux terrains de pétanque, et on mange
tapas,
dehors.
Faire l'apéro.
D'ailleurs, on a fait ça hier à midi, c'était le premier jour de où il faisait beau, c'était un peu
alors,
par
vous
hasard.
Étiez dans votre jardin, ouais. En face de votre théâtre, sous le soleil, à manger des tapas.
Et on a joué à la pétanque.
Voilà.
Et on a pensé à tous ceux qui étaient dans The Place to Be à Paris. Et on a dit, tant pis.
Tant pis pour, attention, moi je repars avec vous, je reprends l'avion avec vous. Bon, vous proposez plein de talents, j'imagine, en face justement du resto Le Jardin, sur la scène du théâtre La Comédie de Toulouse.
Oui, il y a beaucoup
parce que
de
vous êtes producteur.
Oui, et puis on a, dans notre théâtre, il y a à peu près 200 spectacles par an.
Exactement.
Donc ça fonctionne tout le temps, il y a toute une équipe qui y travaille.
Il y a des têtes d'affiche, il y a des gens un peu moins connus, et puis aussi, on a un petit café-théâtre aussi qui propose la place aux jeunes
très
talents.
Jeune talent.
Et on a un comédie club aussi au restaurant Le Jardin qui, deux mardis par mois, laisse la scène ouverte à tout un tas de jeunes talents. Des fois, on voit des trucs absolument géniaux.
Ultime question, parce que ça file vite le temps avec vous, les Chevaliers du Fiel, mais je crois savoir qu'il n'y a jamais eu de contrat, aucun contrat signé entre vous deux. Donc, vous fonctionnez à l'amitié pure.
Oui.
C'est quand même rarissime, c'est carrément unique dans ce métier.
Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Non, il n'y a jamais eu de contrat il n'y a jamais eu d'avocat entre nous. Tant mieux d'ailleurs.
Et à chaque fois parce que évidemment, les affaires ont un peu grandi, tout ça, machin. Et puis, c'est tacite, quoi. C'est-à-dire que moi, ça ne me vient pas à l'idée. Enfin, quand un nouveau truc se présente, que moi, je suis un peu hyperactif, je dis, on pourrait faire ça. Je commence à dire à Francis, est-ce que ça t'intéresse? S'il me dit oui, il a la moitié du truc et il va en avant. Et s'il me dit non, je dis, je vais peut-être le faire tout seul. Donc, c'est déjà arrivé aussi. Mais il y a un vrai respect, c'est-à-dire ça. Et quand les avocats, les machins, les conseillers, les experts comptables, les commissaires aux comptes, ils ont rendu compte, vous n'avez pas de contrat. Et s'il arrive quelque chose, on lui dit, que veux-tu qu'il arrive? Il nous est déjà tout arrivé.
Oui.
Il arrive. Rien. Non, mais c'est vrai, Francis ne me trahira pas, je le connais.
Exactement.
Pas.
Et puis le contraire, on a l'impression que si on met des avocats, c'est eux qui vont inventer des histoires pour exister.
Voilà. Souvent, quand tu crées, tu signes des contrats, tu inventes la clause que tu n'avais même pas imaginée. C'est-à-dire que les gens, ils disent, imaginez, il part avec la caisse. Mais moi, je n'ai jamais pensé qu'il partirait avec la caisse. Je dis, oui, mais s'il part avec la caisse. Alors, on commence à dire, alors s'il part
mais
avec la caisse.
Mais tais-toi.
Voilà, et lui, il lit, comment ça, je partirais avec la caisse? Et les histoires commencent.
Ah là là. Bon, c'est formidable, en tout cas, d'avoir passé cette heure avec vous, les garçons. Je rappelle que les Chevaliers du Fiel sont en tournée dans toute la France avec les municipaux La Revanche, que vous emmènerez au Palais des Sports de Paris. Ça va vibrer, hurler de rire les 12 et 13 avril 2025. Mais vous jouez aussi à Avignon les 26, 27 et 28 mars, monsieur et madame Lambert, aux Jeux Olympiques. J'ai hâte de voir ça. Ouais. Parce que moi, je pourrais pas aller à Avignon, mais je regarderai votre spectacle
sur
C8. En live sur C8.
À 21h.
À 21h, le 28 mars. Bon, c'était épatant.
Bah nous,
vous pouvez pas me faire une petite place dans l'avion, là, dans votre valise, pour refiler vers Toulouse.
La valise est petite.
Mais tu viens quand tu veux.
Quand tu veux, tu es la bienvenue.
Mais oui, mais oui.
Alors à très bientôt.
Ok.
Isabelle Morizet sur Europe 1.